La Relève Radio, c'est à CJMD. CJMD.
Nous sommes de retour présentement avec Marcel. Et on a parlé un petit peu pendant le temps des commanditaires, mais pour toi, est-ce qu'il y a des choses dans la vie qui t'a vraiment marqué, des prises de conscience que tu as eues suite à des événements qu'on pourrait dire insolites ou d'autres choses comme ça qui a pu arriver?
Oui, il y en a plein, là. Il y a plus de 200 pages. Mais il y a un moment donné, j'ai eu un client qui est venu par un ami. Et puis, il s'appelle Yvon. Yvon, je dis, t'as un problème dans ton genou, ça va pas. Il dit oui, effectivement. Puis là, j'ai raconté un paquet de choses sur sa vie. Puis là, il me regarde, puis il est fâché. Il dit, coudonc, à qui t'as parlé? Comment ça, à qui j'ai parlé? Il dit, mon frère est dans la police, puis il y a assez moins que ça sous moi. Qu'est-ce que tu me dis? Je lui dis, oui, Yvon, t'as mal à ton genou, puis dans ton genou, je ressens comme de la ferraille. J'ai fait de la chimio, puis quand tu fais de la chimio, tu as un goût de métal dans la bouche. Puis quand je pense à ton genou, j'ai un goût de métal dans la bouche. Mais il dit, oui, mon genou fait très mal. Puis j'ai mon rendez-vous, parce qu'il s'est fait installer un genou artificiel là, il y a quelques mois de ça. Et puis il avait rendez-vous avec son chirurgien. Et puis il m'a rappelé une couple de jours après, il dit, t'es ton goût de métal, là. Il y avait une vis qui s'est défaite dans mon genou, puis elle se promène dans le genou, c'est ça qui me fait mal. Et puis, c'est des choses pour moi qui sont relativement simples, mais qui t'amènent à avoir une plus grande confiance dans tes capacités. Tu sais, je sentais dans ma bouche le métal, je savais qu'il y avait un rejet métallique, je savais qu'il y avait quelque chose dans son genou qui n'allait pas. Et puis, ça t'amène à pouvoir se faire des prises de conscience. Ça t'amène à comprendre qu'il existe autre chose qui est vraiment insolite dans le monde.
Moi, ce que tu me dis, ça me fait penser à quelqu'un qui est plus... qui est connecté, mais aussi qui a du ressenti. T'as du ressenti. Pour ressentir le goût du métal, pour... tu sais, c'est vraiment quelque chose de ressenti, là. Donc, c'est dans tous tes sens que tu viens chercher l'information de ce que la personne a devant toi, là.
Je dirais qu'on a plus que 5 sens, et puis on arrive aussi à les affiner. Au début, en massothérapie, je travaillais avec des personnes, puis dès que j'arrivais, mettons, au-dessus du foie, avec mes mains... Ça sentait la mort, ça sentait comme une vieille boucherie. Puis là, je me mettais à penser, je sais pas moi, à une cure de Chardon-Marie, une cure de radis ou n'importe quoi. Puis quand j'avais le bon produit en tête, la douleur partait. Donc, j'ai invité la personne, va nous voir un petit naturopathe, peut-être une cure, ton foie, ça te ferait du bien. Mais je suis pas la personne qui va vendre des produits, qui va faire quelque chose, mais je vais aiguiller. Je pense qu'on est des aiguilleurs aussi, amener les gens vers d'autres personnes. Puis c'est pas nécessaire de prendre le crédit, mais regarde, à ta place, je ressens que ça te ferait du bien. Va donc voir, va donc voir ce qui se passe. C'est l'idée, c'est de donner les gens d'avoir une meilleure santé, mais en prévision de pas attendre la maladie.
Est-ce que tu as eu des feedbacks de ces gens-là suite à avoir aiguillé la personne sur...
Oui, souvent, oui. Ouais. Mais c'est plus... disons que c'est un peu, pour moi, un départ ou un début de quelque chose. Maintenant, ça m'arrive plus tellement. On est passé à autre chose. On est plus dans l'émotionnel.
OK.
Aller voir le problème émotionnel qui existe avec la personne ou les personnes. Même les animaux, ça fonctionne aussi. J'ai déjà dit une dame que son cheval avait mal à un genou parce qu'il y avait un bout d'os qui s'est déplacé. Puis trois jours après, il y avait une radio, il y avait un bout d'os qui s'est déplacé dans le genou du cheval. Ça touche n'importe quoi.
Oui. Okay. C'est bien.
Mais c'est particulier, mais c'est très... c'est palpitant, c'est captivant. Ça arrive toujours insolitement, on pourrait dire. Quand c'est pas programmé, quand on programme, on veut faire ça, ça marche pas. On est dans l'ego.
Tu as aussi un endroit où que tu reçois des gens, des fois, pour avoir certains soins ou certaines informations. Comment tu procèdes? C'est quoi tu fais comme...
C'est particulier parce que auparavant, souvent, je m'amusais avec... je faisais un dessin d'une figure... d'un corps humain. Puis avant que la personne arrive, je disais, mais t'as un problème au genou, t'as ci, t'as ça. Je me suis beaucoup inspiré aussi de Jacques Martel. certaines de ses connaissances aussi. C'est un amalgame, mais je me suis beaucoup amusé à faire ça. Puis aujourd'hui, quand je reçois des gens, la plupart du temps, c'est que je sais pas mal pourquoi ils viennent. Je vais pouvoir capter des choses. Quand la personne est là, j'arrive à valider dans leurs informations, même avec leur guide, comme si mes guides et leurs guides pouvaient se jaser, puis j'ai juste à écouter aux portes pour voir ce qui se passe. Et puis en réalité, c'est une grande simplicité, mais c'est simplement de se laisser, d'accepter de se permettre d'aller là où c'est inédit,
mm-hmm.
sans avoir peur. Et puis de ne pas être dans son ego, qu'on fasse quoi que ce soit, et de se laisser découvrir. Et découvrir aussi les choses qui n'existent pas dans le monde dans lequel on vit, et d'accepter qu'il existe autre chose que ça, de se permettre d'aller vivre ça. Je crois que ton côté aussi, toi-même, tu vis des choses, tu ressens des choses. Oui. Et puis,
on cherche pas des réponses, elles viennent tout seules.
Exactement.
Si on cherche, mais ça vient pas.
Ben, ça vient pas, ou ça peut
être... On apprend assez vite, celle-là.
Ouais, c'est, ou sinon, c'est qu'on va chercher à modifier un peu, colorer.
Mm.
Tu sais, des fois, je vais voir quelqu'un, je vais dire à la personne, il faut que je te dise chaloupe verte. Pourquoi chaloupe verte? J'ai pas la moindre idée. Mais si je te dis bateau en aluminium, c'est pas ça. C'est chaloupe verte.
Mm-hmm.
Puis la personne va dire, oui, mon grand-père m'amenait à la pêche, puis il me faisait un sandwich. Après ça, il me prenait ses genoux, puis... C'est très important.
Tu te laisses aller.
Exactement.
Tu laisses aller qu'est-ce qu'il doit se dire, même
exact.
Sans juger, sans se poser la question est-ce que je dois dire ça ou pas, tu le laisses.
Je vais-tu avoir l'air fou?
Ouais. comme dans les débuts, c'était comme souvent ça, sûrement, ça t'a sûrement déjà arrivé au moment donné de dire bon, ben, oups, j'aurais dû dire ça, ce bout-là, parce qu'ils viennent m'en parler, puis je viens de l'avoir, mais je n'y ai pas parlé. Tu sais, c'est comme, tu sais, parce que à un moment donné, tu viens avoir confiance, ou puis.
Je te
tu
dirais,
dis, même si ça a l'air vraiment weird, là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas le laisser aller. Puis,
après que j'ai vécu le truc en dehors de mon corps et je suis revenu dedans, après ça, la deuxième leçon, je ne dirais pas la plus dure, mais insolite, c'est d'accepter d'avoir l'air imbécile.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, regarde, faut que je te dise ça, je ne sais pas pourquoi, ça ne me dit rien, mais il faut que je te dise telle chose.
Mm-hmm.
Au début, j'aurais peut-être interprété. Tu sais, c'est arrivé de m'en aller avec une cliente, je dis, elle était couchée sur la table, je dis, est-ce que tu as eu, dans le passé, qu'il y a eu des abus envers toi? Puis je la connaissais pas. Puis tu sais, ils sont fatigants, ils tirent les culottes,
dis,
non, je ne demandais pas, je ne connais pas. Puis,
ne pas le dire. C'est comme si, à un moment donné, c'est comme plus fort que toi, tu vas parler, puis à un moment donné, il va sortir de toute façon.
Ouais.
C'est comme si, quand il faut que quelque chose se dise,
exact. Et là, j'ai demandé, est-ce que tu as subi des abus? Il y a eu un silence, mort. Puis après 3 minutes, tu s'est mis à pleurer, puis on a pu parler ensuite, puis maintenant, ça lui a permis de passer à autre chose.
Mm-hmm.
Mais c'était tellement terré loin qu'il a fallu aller secouer un petit peu.
Ah ouais, j'ai vécu ça, moi aussi. C'est, au début, tu veux pas trop, puis tu n'as pas le choix. Il faut que tu en parles.
Il y a un moment donné, j'ai eu une psychologue à un moment donné comme cliente, puis son mari vient de mourir d'un cancer du cerveau. J'ai dit comment elle était morte, puis elle était éprouvée, puis elle n'allait pas bien, puis c'était vraiment noir autour d'elle. C'est vraiment pas cool. Fait que le deuxième soin, j'ai demandé, elle dit, toi, t'es psychologue, hein? Elle dit, oui. Ça t'arrive-tu des fois de soigner des gens qui entendent des voix? Elle dit, oui, j'en ai beaucoup, beaucoup, puis ça paye mon épicerie, ça paye tout, mais il y en a tellement de gens qui vont pas bien. Ah ouais. Juste pour te dire que tu te fais traiter par quelqu'un qui entend des voix.
Mm-hmm.
Il y a un silence pendant 2 minutes. Après ça, elle s'est étouffée de rire. Elle dit, toi, tu as su me recadrer. En réalité, c'est ça. C'est juste de... Puis une de mes armes les plus puissantes que j'ai, c'est d'amener les gens dans la dérision. Quand ils arrivent à sourire ou rire un peu de la façon dont ils fonctionnent, après ça, tu peux plus les mêler, tu peux plus les diriger.
Mm-hmm.
On a passé du dramatique au côté drôle.
Okay.
Donc, c'est plus facile.
Donc, en plus d'avoir ces dons de voyance-là, on va appeler ça comme ça, c'est un petit peu de la psychologie en même temps pour aider les gens à se sortir d'un problème.
J'aime beaucoup le terme que tu emploies, psychologie, parce que moi, je suis plus au niveau de Viktor Frankl. Lui, il parle de la psychologie, mais au niveau de l'esprit.
Oui. Mmh.
Ouais. C'est très intéressant.
Ouais. Ou par la psychologie.
Oui, ouais, c'est que c'est.
Tu sortes des étapes, toi, à place d'écouter pendant des heures et des heures comme psychologue, bien là, tu sortes des étapes, tu le vois tout
de suite. Je ne veux pas me mettre personne à dos, mais c'est beaucoup plus facile d'aller confronter l'esprit que le mental.
Mais oui, c'est ça.
C'est beaucoup moins long.
Oui, parce que des fois, tu sais, la mentale, tu ne peux pas avouer qu'est-ce que tu as fait, mais toi, tu vas le voir tout de suite. Fait qu'elle n'a pas besoin de te le dire, tu vas le voir tout de suite. Là,
exactement.
Ou qu'il bobo, tu n'auras pas besoin d'aller faire 25 séances pour l'avouer.
C'est de reprogrammer dans le positif aussi. En réalité, c'est beaucoup ça. De travailler le positif. On oublie le négatif.
Ouais.
Et puis, ça m'est arrivé longtemps, ça m'est arrivé plusieurs fois avec des personnes à mener. C'est très rare que je donne des devoirs, mais il y a une femme que j'ai dit, il faut que tu t'en vas chez toi, puis tu fais une liste de choses positives de toi. Puis fais la longue de la liste. Elle dit, OK, mais qu'est-ce que je fais avec le négatif? Tu t'en vas chez vous, tu fais une liste de choses positives. Ça a duré une demi-heure.
Mm-hmm.
Après une demi-heure, elle dit, OK, je comprends. Si je m'occupe du positif, je ne m'occupe pas du négatif.
Oui, et voilà.
Mais c'est ça, c'est de changer le minding des gens.
La vision des gens.
À tous les jours, avoir une gratitude envers quelque chose qu'on a vécu qui est positif. Ce qui fait que là, ça nous amène à regarder moins ce qui est négatif, mais plutôt ce qui est positif.
Oui, de changer de regard.
Mettre l'attention au bon endroit.
Exactement.
Pour manifester, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut là, dans la vie. Là.
J'ai cette tendance-là à oublier ce qui est négatif, moi, puis garder ce qui est positif.
Ça n'arrête pas de donner. C'est une bonne mauvaise habitude. C'est une très bonne mauvaise habitude.
Écoute, est-ce que toi, tu reçois des gens? Est-ce que tu...
Oui, je reçois des gens assez régulièrement. Je vois les gens souvent une fois, deux fois. La plupart du temps, c'est deux. Des fois, après ça, ils reviennent pour des messages, parce qu'il y a toujours quand même des messages. Il y a toujours une évolution, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a des gens que je vois une fois, puis je ne revois pas. C'est très rare, mais ça arrive qu'ils ne sont pas prêts. Des fois, je vois les personnes, je vais les revoir deux ans après.
OK.
Là, c'est bon. Là, ça passe. Je n'étais pas prêt avant. Il faut être prêt. Comme on disait, il ne faut pas pousser.
À ce moment-là, les gens doivent faire quoi pour te contacter?
Par mon site Internet que j'ai, qui s'appelle Emotion, en anglais, emotionreset.com. Soit ça ou par mon email, c'est marcelboyer@mac.com.
OK.
Ou par les gens qui me connaissent. Ils commencent à en avoir de plus en plus.
Oui, c'est souvent comme ça.
On va mettre ça sur le site Internet capable de, justement, de pouvoir rentrer en contact avec toi.
Merci beaucoup, c'est apprécié.
Et puis, tu as amené avec toi une jolie personne, charmante personne. Alors, est-ce que tu pourrais lui céder la place? On va parler un petit peu avec ta compagne. Je pense qu'elle a beaucoup à nous dire, elle aussi. Je pense, justement, le fait que vous vivez ensemble, c'est pas un hasard.
Oui, non, jamais d'hasard. Exactement.
Merci, alors, la place est chaude.
C'est bon. Alors, est-ce que tu pourrais venir avec nous? Alors, bonjour.
Bonjour, monsieur, dame.
Oui, on est en présence de Carole Poirier. On était avec Marcel Boyer. Hein? Alors, Carole Poirier, bon, ben, elle est messagère du cœur et de l'âme. Elle est guide spirituelle. Elle fait de l'encromancie. Accompagnatrice du bien-être, canalisation, psychométrie, toile d'intention thérapeutique. Wow! Je pense qu'on a tout qu'un pedigree. Incroyable. Alors, c'est quand même intriguant. Là, on voit psychométrie, encromancie. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça?
Mon grand amoureux.
Ah oui? Ça a été détecté chez toi, ça? À un moment donné, tu t'es... plonger dans ce monde.
Oui, c'est vraiment récent. Ça s'est vraiment illuminé quand Marcel est entré dans ma vie. Plus jeune, j'avais des ressentis, des choses comme ça, sans vraiment savoir qu'est-ce que c'était. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et à l'âge de 50 ans, je travaillais pour un employeur et j'avais souvent comme des nœuds dans l'estomac et on me disait que j'étais pas à ma place, j'étais pas sur mon X. Et du jour au lendemain, j'ai tout lâché et j'ai décidé de cheminer sur moi-même. J'ai fait un burn-out, puis là, j'ai vraiment fait une intériorisation, commencé à faire des lectures de croissance personnelle. J'ai vu une coach de vie qui m'a amenée dans une libération où j'ai ressenti un espace. On est allé dans des vies antérieures. Où est-ce qu'elle m'avait raconté que j'étais bohème, gypsy, j'avais ma boule de cristal, etc. J'avais été jugée à ce moment-là et tout ça. Et vraiment, c'est venu en résonance avec qui j'étais quand j'étais adolescente, où j'avais comme des connexions un peu, bon, hispaniques et une intrigue par rapport à tout ce qui était spirituel, ésotérique et tout ça. Et c'est venu vraiment comme se combiner pour me réaligner avec qui j'étais. Et par la suite, j'ai commencé à aller à des rencontres d'éveil de conscience et j'ai rencontré Marcel. Et ce même jour-là où il est entré dans la salle, c'était comme s'il y a eu une espèce de scan qui s'est fait. C'est comme si je le connaissais. Je savais pas d'où ça provenait. Le même soir, je disais à mon amie que j'avais un attachement vers lui parce qu'elle, elle trouvait de son goût. Puis elle disait, est-ce que tu le trouves attirant? J'ai dit, ben moi, c'est un attachement. Elle m'a dit, tu peux pas avoir un attachement, tu le connais pas. J'ai dit, c'est à l'intérieur de moi. Mm-hmm. Je ressens ça très, très puissamment. Oui, c'est ça, exactement. Puis le lendemain, il m'a contacté. Il m'a parlé de qu'est-ce qu'il avait vu quand il m'avait aperçu. C'était comme une grande entonnoir au-dessus de toi, mais il y a comme une brique. Il faudra retirer cette brique. Là pour que ça puisse, tes capacités puissent s'ouvrir et tout ça. En tout cas, puis finalement, je suis allée en soins avec lui, j'ai eu ma première illumination et ça s'est poursuivi quelques jours après. On avait une rencontre d'éveil de conscience et là, c'était comme. Je me suis mis comme à trembler de tout mon corps. J'avais des engourdissements comme j'avais eu lors de mon premier soin avec Marcel. Puis là, tout me tremblait, puis je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Puis là, Marcel m'a accompagnée là-dedans. La dame qui animait, qui était médium, m'a dit, accueille, t'es en résistance, ouvre ton cœur, laisse passer, tout ça. Et là, j'ai revu à nouveau, bon, moi, je vais appeler ça la source, là, avec l'interconnexion avec chacun de nous. J'ai vu le tout, j'ai vu la lumière, j'ai ressenti l'amour pur. Ça a été un moment incroyable, indescriptible. Je me suis mis à pleurer, puis ça a été comme une grande ouverture, une grande libération. Et par la suite, c'est ça, là, petit à petit, bon, je suis allée prendre mon autre soin avec Marcel, puis il a commencé rapidement à m'initier avec une de mes amies pour m'aider à faire monter l'énergie chez la personne et tout ça. Et ça a été très rapide. On a été en couple de façon très, très rapide parce que, bon, Marcel, la première fois qu'on s'est vu, il me dit, écoute, je sais pas, j'ai vu quelque chose dans tes yeux quand je t'ai rencontré la première fois. Je sais pas t'es qui, mais tu me fais peur. Puis, petit à petit, c'est revenu où est-ce qu'il a dit, OK, on a eu une vie ensemble en Espagne. Il m'a raconté qu'est-ce qui s'était passé. Lui, il voulait me sauver. Et je vivais cette vie-là où est-ce que, bon, j'étais gitane, la boule de cristal, blablabla, tout ça. Et il avait voulu comme m'amener dans son monde à lui, puis j'avais refusé. Puis là, ben, c'est comme si on a quelque chose à terminer dans cette vie-ci. Fait qu'il m'a initié très, très rapidement. Quand il a emménagé chez moi, il faisait les soins chez moi, puis c'était à air ouverte. Et bon, moi, plus jeune, quand je suis à l'université, je voulais être psychologue. Fait que j'ai toujours été intriguée, tu sais, par l'histoire des gens et tout ça. Tout le temps, une très bonne écoute. Les gens viennent très, très facilement vers moi, me racontent leur vie, ils me disent, mais je sais pas pourquoi je suis prêt à te raconter ça. C'est la première fois que je te vois, puis je suis après m'ouvrir à toi. Ça, c'est depuis que je suis jeune aussi, que les gens viennent vers moi, puis ils s'ouvrent sans que je pose de questions. C'est comme ça, ils sentent le non-jugement. Puis bon, en tout cas, puis finalement, en faisant ces soins-là, c'est quand Marcel procure le soin, avant, il parle avec la personne, comme une heure et demie. Puis là, il a commencé à me demander, bien, tu as l'air intéressé, viens, tu sais, on va échanger aussi avec les gens et tout ça. Et là, à ce moment-là, ma fille passait un mauvais moment, puis Marcel lui a offert un soin, puis il lui a fait à la maison. Puis à la fin du soin, il m'a dit, Caro, viens poser tes mains sur le chakra du cœur de ta fille. Juste avec des intentions d'amour pur. Fait juste lui envoyer ça, elle en a grandement besoin. Fait que j'ai posé mes mains sur le chakra de son cœur pendant qu'elle était couchée. Et là, je suis tombée dans une espèce d'état. C'est comme si j'étais en communion, en communication avec elle. Mmh. Et là, je me suis mise à pleurer. J'ai ouvert mes yeux. J'ai vu que ma fille, les larmes, y coulaient. Mais tu sais, on parlait pas, là. C'était comme... Je regarde Marcel, il pleurait lui aussi. En tout cas, ça a été un moment vraiment intense, très précieux. Puis, en fait, moi, je savais pas trop ce qui se passait. C'est la première fois que j'expérimentais ça. Ma fille a suivi par la suite un cours d'enseignant de yoga. Puis elle dit, là, maman, j'ai su qu'est-ce qu'on a vécu. Et dans quel état j'étais au moment où tu avais posé tes mains sur mon chakra du cœur, parce que je suis tombée dans cet état-là en méditation pendant mon yoga et je suis allée dans cet espace-là parce que tu es en connexion avec la grande conscience. En tout cas, fait que ça a été comme très particulier. Puis à partir de ce moment-là, à chaque fin de soin, Marcel me demandait d'aller poser mes mains sur le chakra du cœur. Mais là, plus ça allait, c'était toujours avec des intentions d'amour pur. Mais là, je dis, OK, je ressens des choses, comme t'expliquais un peu tantôt, Pascal, où est-ce que je me dis, OK, mais c'est pas pour moi, là, ce que je ressens là. Puis là, j'en ai parlé à Marcel, puis il dit, OK, au fur et à mesure, tu le dis aux gens. Fait que ça, c'était beaucoup de ressenti. Plus ça allait, au début, je le dis à la fin, après ça, c'était comme, il y en a trop, faut que je le dise au fur et à mesure. Après ça, je dis, oh, OK, attends une minute, là, c'est plus juste des ressentis. Je vois des images, j'essayais d'expliquer. Puis il y avait une amie à nous qui fait du Reiki qui était là, elle dit, ah, des images dans l'invisible. J'ai dit, oui, c'est ça, je vois des images dans l'invisible. Puis Marcel m'a appris rapidement, justement, à ne pas interpréter non plus ces images-là ou ce qu'on montrait, les symboles ou quoi que ce soit, de juste livrer l'information. J'ai appelé ça comme traduire. Je fais aussi de la traduction. Fait que je suis comme aussi une traductrice par rapport aux images ou aux messages qui ont à être livrés. Fait que, en tout cas, fait que ça s'est comme agrandi. Puis par la suite, c'est ça, un bon matin, Marcel s'est levé. Puis comme il dit, un fax qui est entré. Puis il m'a dit, tu vas faire de l'encromancie. Je savais pas c'était quoi. Je suis allée sur Google voir ce que c'était. J'ai vu que c'était une voyante durant la Première Guerre mondiale. Elle faisait de la chiromancie, la lecture de la main. Et elle avait eu un rêve qui lui disait que si elle voulait une réponse à une question, elle pouvait le faire par l'entremise des gouttes d'encre, en déposant 13 gouttes d'encre, qui fait partie du nombre d'or, sur une feuille de papier, plier en quatre, ouvrir, elle aurait sa réponse. Elle l'avait testé, ça l'avait fonctionné pour elle. Donc, elle a commencé à l'utiliser avec ses consultants. Elle a fait un guide par rapport à ça, expliquant si tu vois telle forme, tel symbole, ça a telle signification. Dans mon cas, ça ne s'est pas présenté de cette façon-là. Comme Marcel a mentionné, tantôt, on était chez des amis, un que son PNL, chaman, etc. Et il y en a une qui cherchait un peu. Puis Marcel, il dit, Caro va te donner un coup de main. Je lui ai demandé de déposer les gouttes. Donc, j'ai plié la feuille en quatre. En apposant mes mains, déjà, j'ai ressenti, je ressens beaucoup avec mes mains. J'ai beaucoup d'énergie dans les mains. Et quand j'ai ouvert la feuille, ça a été comme vraiment un courant qui m'a traversé. J'ai spasmé. Puis je me suis mise à lui livrer de l'information pendant 40 minutes. Ça a été les débuts. Le soir même, on est revenu à la maison. Je l'ai fait à Marcel avec du mac de café. J'ai organisé un événement. Mais là, les événements, là, j'étais coincée comme par le temps. Fait qu'il fallait que ça soit quand même plus rapide puis plus précis, si on peut dire. Au début, on me livrait beaucoup d'informations par rapport aux faits vécus de la personne qui avait laissé des empreintes chez elle, que ça soit un harcèlement, que ça soit un avortement, peu importe. C'était très précis à ce niveau-là pour amener les gens vers une prise de conscience qu'il y avait encore du cheminement à faire à ce niveau-là. Au fur et à mesure, ça s'est comme transformé parce que là, il y avait comme une guidance qui se faisait à même la lecture des symboles, des images qu'on me présentait. Et suite à ça, ça s'est encore transformé pour revenir encore plus précis par rapport à quelque chose de très important que la personne a à, comment je pourrais dire, soit laisser aller ou à acquérir dans sa vie au moment où elle est rendue dans son chemin de vie, des séquelles, des résiduels de choses qu'elle a vécues, ou est-ce qu'il est temps de laisser aller. Moi, je pourrais dire, c'est de se ramener dans son être, mais dans une espèce de pureté pour laisser aller des blessures ou bien des répercussions ou quoi que ce soit de choses qu'ils ont vécues pour revenir dans le moment présent, de garder juste ce qu'il y a de bon par rapport à leur expérience vécue, d'avoir un pardon par rapport à ça, puis de revenir dans leur aligné à leur essence, à leur être, à leur cœur, à leur propre vérité. Donc, d'aller tout décortiquer ce qui a été endoctriné, programmé, etc., pour les ramener dans leur essence pure, les ramener dans leur amour de soi, puis la confiance en soi pour continuer leur chemin. Fait que c'est assez, assez particulier, puis ça me permet de vivre toutes sortes d'événements parce que, aussi, c'est que ça va être comme un tremplin. C'est comme, tu sais, souvent les gens vont me dire, tu crées une faille, tu ouvres une porte, on vient te rencontrer, puis par la suite, il y a comme autre chose qui se développe, qui se dégage aussi, ou est-ce qu'il y a une libération, là, qui me disent, je me sens comme si j'avais des boulets après les pieds, là, c'est comme disparu, ou bon, j'avais une hésitation par rapport à une décision, c'est venu comme clarifier, préciser, etc. Puis Puis c'est ça, c'est que, tu sais, on est tous uniques, puis on a chacun notre mission, puis notre chemin de vie. Fait que ça m'amène à vivre des expériences extraordinaires, où est-ce qu'il y en a qui ont à faire la paix avec un parent qui est décédé, par exemple. L'âme se présente à moi, puis il y a un message pour le consultant, la consultante qui est devant moi, pour aller clarifier quelque chose où souvent on va être imprégné de mauvaises perceptions qu'on avait, disons, par rapport à notre relation avec notre parent, par rapport à un événement qui s'était passé quand il était jeune. Et là, on vient vraiment y mettre la vérité absolue, puis là, on vient dégager, puis là, tu sais, le pardon est possible, etc. Puis ça permet à la personne d'aller plus loin par rapport à ça, de faire la paix avec ça, ou juste d'entendre la vérité, justement, tu sais, comme il y en a une, elle croyait que sa mère l'aimait pas, puis le message que j'ai reçu qui était tellement clair par rapport, elle croyait que le fait que cet enfant-là était pas, tu sais, elle était pas désirée, puis elle pensait qu'elle avait comme gâché la vie de ses parents parce que, bon, son père buvait, puis il avait cessé de boire jusqu'à temps qu'il sache que sa femme est enceinte, fait qu'il a recommencé à boire, 6 mois après, il est parti. Fait qu'elle, elle portait cette charge de culpabilité-là, de dire, mais si j'étais pas née, il aurait probablement continué à ne plus boire. Le couple aurait continué, la famille aurait continué. Moi, je suis venue un peu mettre une faille là-dedans, mais au contraire, la mère disait qu'elle lui avait sauvé la vie, en hein, quelque part, parce que à cause de la relation qu'elle avait avec son père, etc., et qu'elle y devait, tu sais, tout son amour et tout ça. En tout cas, ça a été très particulier parce que j'ai des pierres, tu sais, j'aime bien mes petits rituels avec les chandelles, les pierres, etc., bol chantant, et j'avais une pierre de que je voulais lui donner pour qu'elle la pose sur son cœur. Puis là, ben, j'ai vu qu'elle avait les yeux fermés, puis elle se tenait le cœur, puis elle pleurait. Puis quand elle a terminé de pleurer, puis elle a ouvert ses yeux, j'ai dit, oh, je vais t'offrir la pierre de paix. Mais elle l'avait elle-même prise, puis elle l'avait mise sur son cœur. Puis c'est comme si elle entendait sa mère qui lui disait qu'il fallait qu'elle fasse la paix avec elle. Puis elle lui disait, communique avec moi, je vais te répondre, ose me parler, je suis
tout
là pour
toi. Tout un changement pareil, hein?
On a une demande d'arrêter pour le temps d'un commanditaire, ouais. Alors on va devoir revenir tout de suite après.
Parfait, merci.
À tantôt.
Excellent. Yo, what's up out there? This
is Mad Dog on your radio. CJMD 96.9, Lévis. Greatest music station in the world. Act like you know, I said.